France Bleu, il est 13h. Joyeux Noël à vous tous, profitez bien du réveillon. On se retrouve demain en direct dès midi avec Valérie Damido pour l'heure 13h jusqu'à 13h30. Ma France de Noël, Wendy Bouchard.
Ma France sur France Bleu. Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, bienvenue dans ma France avec les passations de pouvoir toute la matinée dans les différents ministères. Quels espoirs, quelles déceptions autour de ce nouveau gouvernement pour les partis républicains et pour tous les partis. L'analyse à suivre de l'éditorialiste politique Michaël Darmon. Jordan Bardella parle d'une coalition de l'échec et la gauche s'insurge contre un casting qu'il juge sous tutelle de Marine Le Pen. On vous accompagne aussi dans vos régions avec la solidarité qui toujours s'organise pour Mayotte. Initiative cette fois du Conseil des jeunes dans la Manche. Quel sujet à éviter? Tenez, on parlait du réveillon ce soir. Eh bien, les nordistes vous en parlent. Un arrêté municipal à la une également dans une petite commune de Gironde pour laisser passer le Père Noël cette nuit. Et puis 13h15, c'est l'esprit de Paris, l'esprit de fête pour les 135 ans du Moulin Rouge. Un musical qui a su se renouveler et qui est mis en lumière dans un magnifique livre signé Jacques Pessis qui vient nous en parler en parole et en musique. Eh bien, après 10 jours d'attente et de négociations, l'équipe de François Bayrou a été dévoilée hier soir et vous êtes à nos côtés. Bonjour Michaël Darmon.
Bonjour à tous.
Journaliste politique, éditorialiste pour France Bleu, pour nous distiller quelques infos, pour lire un peu dans ces nominations. Gouvernement de 35 membres avec 14 ministres de plein exercice, deux anciens premiers ministres, Manuel Valls aux Outre-mer, Elisabeth Borne à l'éducation. Elle a dit vouloir trouver il y a quelques instants la voie de la stabilité, donner un coup d'arrêt aux insultes, aux incivilités dans nos écoles. Un tandem police-justice dont on va parler et qui fera, Michaël, parler de lui, Bruno Retailleau à l'intérieur et Gérald Darmanin, garde des Sceaux.
Je serai celui qui les réconciliera, la justice et nos concitoyens.
Qu'inspire ce nouveau gouvernement aux Français? Eh bien, écoutez ces Provençaux sur France Bleu il y a quelques instants.
Il n'y a rien qui change. Pour moi, pas de surprise et tout ça pour ça, finalement.
Il a fait une équipe de foot, il a pris les plus populaires. Est-ce que c'est une pause avant de retrouver quelque chose de convenable pour les Français? Je ne sais pas.
Ça ne va pas durer longtemps. C'est écrit. Il n'y a pas de majorité.
Ça fait drôle de voir toutes ces personnes qui tournent toujours. Pourquoi on le fait revenir?
On les voit là s'exprimant ce ressenti, ces citoyens, Michaël Darmon, en quelques secondes. Ils le disent, quelques poids lourds, toujours les mêmes, une lessiveuse, un recyclage.
Oui, alors ce qui veut dire quand même que les ministres sont identifiés. Si on dit on prend toujours les mêmes, on prend les poids lourds, ça veut dire qu'effectivement, la démarche et le propos de François Bayrou de dire, parce qu'il est quelqu'un de très politique, de dire je veux prendre des personnalités qui identifiées marquent par les Français, parce que ça suffit les ministres anonymes que personne ne connaît, qui au fond creusent la désaffection.
Il y en a aussi dans ce gouvernement.
Il y en a aussi, mais il y a quand même aussi, on le voit bien, énormément de gens qui sont connus parce qu'ils ont déjà été aux manettes ou parce que ce sont déjà des personnalités politiques qui ont fait leur chemin politique depuis des années. Donc de ce point de vue-là, c'est une volonté de dire on va faire une équipe qui sera visible, qui sera repérée par les Français pour qu'ils les critiquent éventuellement, c'est parfaitement leur droit, pour qu'ils les mettent sous surveillance en disant ben voilà, on sait maintenant avec qui on veut que les choses avancent, mais de ce point de vue-là, c'est effectivement un objectif qui, d'après les premiers commentaires, semble atteint.
Avec ceux qui sont reconduits, qui ont fait leurs preuves, notamment Catherine Vautrin, au travail qui hérite également de la santé, Rachida Dati, un nom populaire qu'il souhaite garder aussi, François Bayrou. Est-ce que vous diriez que clairement aujourd'hui, c'est Bruno Retailleau qui tire peut-être son épingle du jeu, qui parvient donc à réussir, qui parvient à rester à Beauvau, au ministère de l'Intérieur?
Oui, clairement, parce que c'est effectivement, comme vous dites, celui qui reste à son poste, un poste très exposé, un poste qu'il a pris à la hussarde lorsqu'il a été donc dans le gouvernement éphémère Barnier. D'ailleurs, c'est le seul, au fond, personnage, on va dire, le seul ministre qui ressort, ce sera l'héritage de Michel Barnier, c'est l'émergence de Bruno Retailleau. On verra effectivement avec quel résultat, mais indéniablement, sur le plan politique, puisque Laurent Wauquiez a décidé de ne pas rentrer donc dans le gouvernement. On a vu les mésaventures de Xavier Bertrand, qui n'est pas rentré au gouvernement. Donc en fait, la figure de droite avec Gérald Darmanin, c'est Bruno Retailleau. Et là, c'est intéressant, parce qu'en fait, ce sont aussi les retrouvailles de cette droite qui s'était divisée en 2017 en filloniste et en macroniste. Souvenez-vous que Gérald Darmanin avait quitté la droite parce qu'il n'avait été pas d'accord avec les options de François Fillon et il avait rejoint Emmanuel Macron. Et Bruno Retailleau avait vertement critiqué, en étant, souvenons-nous également, un lieutenant de François François Fillon, il avait très fortement critiqué les options de cette partie de la droite macroniste. Or là, on assiste à ces retrouvailles de la droite. On sent bien qu'effectivement, il y aura des discussions entre eux pour la suite et pour voir comment ils peuvent s'articuler pour une offre politique.
Dans ce bloc police-justice, pas de participation directe des socialistes, mais on note tout de même, Michaël Darmon, deux figures de l'ancienne gauche du PS, Manuel Valls et François Rebsamen. Écoutez d'ailleurs l'étonnante définition que François Bayrou fait hier soir de cet ancien Premier ministre, son collègue Manuel Valls.
Manuel Valls, ancien Premier ministre de gauche. Alors Manuel Valls est une personnalité un peu kamikaze par moment. J'aime bien les personnalités audacieuses ou qui acceptent de prendre des risques. C'est une personnalité pour qui j'ai de l'estime.
Audacieux et kamikaze Manuel Valls qui sera au chevet de Mayotte, première urgence. Pourquoi cette définition?
Alors on ne s'attendait pas effectivement à ce terme, mais à y réfléchir, c'est pas faux. Effectivement, il y a un côté, souvenez-nous, quand il était déjà ministre de l'Intérieur, il avait osé porter le fer à l'époque contre un Dieudonné, il avait osé poser des sujets qui font qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il est honni par une partie de la gauche aussi, qui a décidé que décidément plus jamais il ferait partie de leur camp. Il est l'homme qui a posé le premier le concept des gauches irréconciliables.
C'est vrai.
Ce qui reste quand même encore prouvé, malgré le cartel électoral, reste prouvé encore par les évolutions politiques ces derniers temps. Donc oui, c'est quelqu'un qui a pris des risques. On l'a vu également dans ses aventures, ou plutôt mésaventures, en allant tenter de se faire élire en Espagne, revenir et dire sans embâge, j'aimerais resservir dans un gouvernement. Donc de ce point de vue-là, aujourd'hui, effectivement, il a tout lieu d'être content, Manuel Valls, d'être revenu dans un ministère et avec un portefeuille explosif, avec énormément de sujets très très importants, à part Mayotte, bien évidemment, la Nouvelle-Calédonie,
absolument,
la situation sociale aux Antilles, les territoires d'outre-mer laissés pour compte, et effectivement, ça va être un enjeu très important pour Manuel Valls.
Il n'est plus une caution de gauche, même s'il est très courageux, notamment sur la lutte contre l'antisémitisme, et la question de la gauche et de la censure de la gauche se pose, évidemment. François Bayrou compte sur son esprit de responsabilité, Michaël Darmon, mais Olivier Faure le rappelle, aujourd'hui, aucune des conditions n'a été respectée par le Premier ministre pour établir un pacte de non-censure. Écoutez le député socialiste de l'heure, Philippe Brun, qui demande clairement des engagements au Premier ministre.
Nous demandons rapidement, instamment, une réunion de négociation avec François Bayrou sur le programme, sur la question des retraites, qui est centrale, car nous ne pouvons pas vivre dans un pays dans lequel cette réforme Borne continue à s'appliquer compte tenu de son injustice flagrante pour les gens qui exercent les métiers les plus pénibles et qui ont commencé à travailler tôt. S'il n'y a pas de discussion avec nous, s'il n'y a pas d'accord avec nous, alors il y aura le 15 janvier prochain une censure des socialistes.
Est-ce qu'il y a une possibilité de stabilité, une possibilité que ce gouvernement parvienne à tenir 30 mois, Michaël Darmon?
Alors si, bien évidemment, le budget passe sans être censuré, sans que le gouvernement tombe, alors là, effectivement, si je puis dire, entre guillemets, les espoirs sont permis que ce gouvernement puisse durer, je ne sais pas, 30 mois, mais en tout cas, au-delà de la période budgétaire, et peut-être, en tout cas, jusqu'à la deuxième période calendaire, au moment
budget
où la dissolution...
Budget qui sera adoptable mi-février.
Voilà, et s'il passe, eh bien, le rendez-vous d'après, ce sera le moment où il est possible de dissoudre à nouveau pour le président de la République, et on verra s'il dissout ou pas. Ce qui est intéressant dans ce bras de fer là qui est mis en scène et politiquement avec les socialistes, c'est que au fond la confrontation maintenant avec François Bayrou permet aux socialistes de redevenir des opposants. Regardez, ce sont pas vraiment les élus insoumis qu'on entend. On entend que les socialistes.
Oui.
Et donc en réalité, il y a une sorte de, je dirais, de pas d'accord tacite, mais en tout cas où on se reconnaît mutuellement. Et là, ce sont les socialistes qui sont en train de reprendre leur rôle d'opposant.
Oui.
Le Congrès se prépare. Il va se passer beaucoup de choses à gauche en 2025.
Et le RN dans tout ça, ne les oublions pas. Le Rassemblement National a-t-il gagné une bataille de plus, notamment en empêchant entre guillemets l'entrée au gouvernement, et en particulier au ministère de la Justice de Xavier Bertrand? Est-ce que le gouvernement est entre les mains du RN? C'est la musique qu'on entend très clairement entonner depuis hier.
Ça n'est pas exact. Le gouvernement n'est pas entre les mains du RN. Le RN n'est pas, ne participe pas au gouvernement. Le RN fait une pression politique compte tenu de la situation de crise politique dans laquelle nous vivons, presque de crise de régime, et surtout de la tripartition maintenant de la vie politique qui se réclame en permanence, comme ils le disent dans toutes leurs déclarations, des 11 millions d'électeurs qui ont voté pour eux. Donc ils veulent absolument peser. De ce point de vue-là, c'est un parti qui existe au sein de l'Assemblée nationale. Il joue son rôle. Donc on verra dans quelle mesure, effectivement, la matrice gouvernementale qui est mise en place arrivera à juguler cela. Je dirais que le nouveau problème pour Marine Le Pen s'appelle maintenant le tandem régalien Retailleau-Darmanin.
Absolument, qui peut vider de sa substance
qui aura certainement à cœur de tenter, effectivement, de vider, comme vous dites, de sa substance, et en tout cas d'attirer une partie de l'électorat de Marine Le Pen vers eux.
Merci Mickaël Darmon pour cette analyse sur France Bleu. Les passations de pouvoir ont lieu aujourd'hui. Emmanuel Macron accueillera les nouveaux ministres le 3 janvier à l'Élysée. Discours de politique générale de François Bayrou attendu le 14 janvier. L'urgence numéro 1. Le budget, évidemment, et puis l'agriculture, la santé seront aussi des sujets essentiels sur lesquels nous reviendrons. Merci beaucoup, Monsieur Darmon. Il est 13h10, c'est le réveillon de Noël, puisque nous avons parlé politique. C'est aussi le moment de se retrouver en famille, peut-être de mettre de côté, d'écarter certains sujets qui fâchent, et notamment les sujets politiques, les histoires de famille ou la religion. Thomas Palmier est allé demander à quelques Lillois, justement, quelles discussions sont à contourner ce soir.
Pour Martine, il n'y a pas de doute.
La politique, parce qu'on peut y passer toute la nuit.
Alors, est-ce qu'il faut parler politique à Noël ?
Non, vaut mieux pas.
On va pas en parler. Ah non, on va éviter.
Olivier et Charles sont catégoriques. Malgré leur jeune âge, les cousins Maël et Roman connaissent eux aussi les sujets sensibles.
La politique.
Le racisme, le sexisme, des trucs comme ça. Ouais.
La religion aussi. Ouais.
Ces dernières années, un nouveau sujet est arrivé sur la table à Noël.
Je dirais l'écologie, je pense.
Angèle et ses trois frères et sœurs sont véganes, ce qui n'est pas accepté par toute la famille. Son frère Dominique a une technique bien à lui pour éviter les réflexions.
Donc on se soutient dans une certaine mesure. Moi, je joue la carte de la disparition et je laisse mes frères et sœurs gérer le reste.
Mais pour que tous ces sujets fassent débat, il faut bien allumer la mèche, tout sourire. Charles est un spécialiste.
Il y a toujours un moment le côté un peu le jeu de lancer un sujet un peu tendu.
Pendant sa pause café, Mafoud prend tout ça avec philosophie.
Moi, mon conseil pour les fêtes de Noël, c'est qu'on peut tout dire. Il faut juste choisir la bonne tonalité et la bonne fréquence.
Si certaines familles se déchirent pendant le réveillon de Noël, il reste quand même des sujets qui rassemblent, selon Dominique.
Le LOSC. Le LOSC.
Aller parler de foot en mangeant une bonne dinde, ça fait au moins deux raisons de passer quand même un bon réveillon de Noël.
Eh oui, le LOSC pour les Lillois, évidemment. Dans la course du Vendée Globe, vous entendiez la tenacité et la fatigue, malgré tout, de l'impressionnante Violette d'Orange. Pour les leaders, eh bien c'est fait, le réveillon aura lieu au Cap Horn. Johan Richomme l'a franchi hier à 23h27 avec un peu plus de 43 jours de mer, et donc c'est un record pulvérisé, record détenu jusqu'à présent par Armel Lecléache. Il avait mis 46 jours en 2016, et c'est une grande joie forcément pour Johan Richomme à ce stade de la course.
Wow, trop bien, quel moment, absolument génial, trop d'excitation de passer le Horn, c'était magnifique, j'aurais jamais imaginé le passer dans les conditions comme ça, il y avait 15 nœuds de vent, la houle qui nous poussait, passer à râle, c'est trop bien, et voilà, et voir toute la chaîne de montagnes derrière enneigée, le Cap Horn en fait il est noir avec de la mousse ou de l'herbe verte dessus, trop beau, à pic je vois le phare, je vois la maison du gardien du phare, trop content, trop fier de moi et de toute l'équipe. C'est vraiment une super récompense de passer le Cap Horn, c'est génial. Je crois en tête parce que je vois Charlie derrière. Bah le gros du boulot est fait, hein. Il ne reste plus qu'à finir, c'est sûr, il n'y a plus qu'à remonter. Ça va être exceptionnel, mais là le moment mérite d'être savouré.
Johan Richomme avec 36 bateaux encore en course ce matin pour la 10e édition du Vendée Globe. Et puis ce fut Noël avant l'heure, et quel Noël ! Un chèque de 10 millions d'euros a été remis à un couple de Marnais qui a remporté le jackpot du loto. C'était au début du mois, au bar Le Balto à Vitry-le-François. Ce duo reste anonyme et va profiter de cet argent pour réaliser quelques rêves, des travaux à la maison et la découverte de la Polynésie française.
Ma France, l'actu sur France Bleu, au cœur des territoires.
Dans Ma France, on relaie aussi, vous le savez, les actions de solidarité qui nous réchauffent le cœur. Avec cette main tendue pour les Mahorais, les mains d'enfants du Cotentin qui, dès le lendemain du cyclone, face aux images de désolation, ont décidé de se mobiliser. Ils ont lancé hier à Sainte-Suzanne-sur-Vire une vente solidaire pour aider Mayotte. Et en pleine journée de deuil national, ces enfants s'affairaient à fabriquer des objets en plastique recyclé. C'est un reportage de Lucie Thuillet.
Pas question de rester les bras croisés, racontent Martin, Axel et Emma, tous ont 14 ans, et tous ont été bouleversés, confient-ils, quand ils ont vu les premières images de Mayotte à la télévision.
J'ai vu des camions et des bateaux retourner, des maisons complètement arrachées, ça m'a choqué un peu.
C'est assez triste parce que, enfin, ils se retrouvent sans maison, sans logement.
Du coup, on s'est dit comment on peut aider en étant loin.
Ils ont donc décidé de relancer une vente solidaire, comme l'été dernier, après le passage de l'ouragan Beryl sur la Guadeloupe. Ils avaient récolté 450 euros reversés au CCS d'une des communes de l'île les plus touchées. Alors pour aider Mayotte, ils ont repris la fabrication d'objets en plastique recyclé.
Donc dans la première machine, on broie le plastique et dans la deuxième, on va le chauffer pour faire comme une pâte à chewing-gum qui va s'insérer dans les moules et ça nous fait les objets.
Des toupies, des porte-manteaux, des décapsuleurs ou encore des supports de téléphone grâce aux machines à recycler de l'association locale Ampère. Des objets commandés par les habitants des alentours qu'ils vont parfois eux-mêmes livrer. Comme chez Anthony.
Merci pour l'action. Nous, ça nous fera des cadeaux de table le 24. Voilà notre modeste contribution.
Tout ça sous le regard des parents.
Fiers d'eux et admiratifs aussi de ce qu'ils font. Parce que c'est pas à tout le monde, c'est plus simple de rester chez soi.
Des jeunes qui ont prévu de fabriquer à nouveau pendant les vacances, car ils comptent bien continuer cette vente solidaire au mois de janvier.
Merci au conseil municipal des jeunes à Sainte-Suzanne-sur-Vire dans le Cotentin. Et puis autre solidarité, c'était hier à Lens avec le Père Noël Vert du Secours Populaire qui a distribué 300 cadeaux à des enfants défavorisés. On termine ce petit tour de France avant que les cadeaux n'arrivent sous le sapin avec le Père Noël et sa mission colossale. Pour la simplifier, la petite commune de Ruche en Gironde, dans l'Entre-deux-Mers, a publié un arrêté municipal. C'est très sérieux. C'est un arrêté pour réglementer dans les airs la circulation cette nuit entre 22h et 5h du matin et faciliter pour Monsieur Noël la bonne distribution des cadeaux. Paul Floroquin.
C'est David Belin qui l'a proposé en personne au conseil municipal. Très sérieusement.
Oh, c'est pas l'imaginaire, c'est la réalité. Le Père Noël sera là la nuit du 24 décembre.
Alors depuis, tout le monde l'attend de pied ferme dans cette commune de 500 personnes. Mais le 24 décembre, le ciel est complètement embouteillé, c'est bien connu. Alors les habitants se sont mis d'accord. Le Père Noël peut garer son traîneau sur le stade de la ville ou sur le toit des maisons, comme celle d'Anna et Marie-Hélène.
Parce que même quand on a 25 ans, on veut ses cadeaux. Donc on va faire de la place au Père Noël. En plus, là, le temps s'annonce dégagé, donc il risque d'y avoir pas mal de vacanciers là-haut qui bougent.
Dans le document, plusieurs obligations pour les enfants. Ils doivent, par exemple, se coucher très tôt pour que le Père Noël puisse passer. Et il ne faut pas non plus oublier nourriture et boisson pour le vieil homme. Attention tout de même, le maire Raymond Viandon a interdit le vin chaud.
Il risque d'en goûter un peu trop et on ne voudrait pas qu'il ait de difficultés après s'il tombe sur un contrôle par exemple ou qu'il dirige mal ses rênes.
Alors on reste aux choses simples, un peu de lait, quelques biscuits pour Léa et son fils de 6 ans.
Et un peu de foin pour les rênes.
Et puis grande nouvelle quand même pour le Père Noël. Il est élevé au rang de citoyen d'honneur du village de Ruche.
Voilà, c'est ça l'esprit de Noël qui nous fait du bien, cette petite magie qu'on partage aussi sur France Bleu.
Ma France, sur France Bleu, Wendy Bouchard.
Et dans Ma France, à quelques heures du réveillon justement de Noël, et vous sachant sans doute occupé à préparer cette fête familiale, on vous donne encore un peu de magie, un peu de rêve, avec une institution, les 135 ans de légende du Moulin Rouge, avec un livre de rouge et de plumes vêtues que l'on doit à notre invité. Bonjour Jacques Pessis.
Bonjour Wendy.
Qui nous entraîne dans ce monde. La féerie du Moulin Rouge, c'est même le nom du spectacle de la revue du moment. Certains de nos auditeurs ont peut-être déjà réveillonné au Moulin Rouge d'ailleurs. Ce livre, on va le feuilleter ensemble, cher Jacques. En quoi ce lieu, en quoi ce spectacle, au fond, raconte Paris et raconte un peu de la France.
D'abord, le Moulin Rouge chez Paris, c'est l'histoire de Paris depuis 1889 et c'est l'image de Paris dans le monde entier. Quand les touristes viennent, ils vont à la Tour Eiffel, à Versailles, au Moulin Rouge.
C'est vrai.
Il y a 1600 personnes tous les soirs depuis des décennies.
Deux spectacles par jour, tous les jours.
Oui, et 7 jours sur 7.
Incroyable.
Ouais. Incroyable. Et ça fonctionne avec 60 personnes sur scène quand même.
Oui.
Donc, ce Moulin Rouge est un symbole de Paris et à chaque fois, il a correspondu à l'histoire de la France depuis 1889. Et la revue Féerie en est le symbole puisqu'elle respecte toutes les traditions de la revue avec les plumes, avec les paillettes, avec les boys, les danseuses, avec les attractions. Et moi, j'étais à la première en 1999 et je n'imaginais pas qu'en 2025, elle serait toujours à l'affiche.
Cette féerie du Moulin Rouge qui a su en effet s'adapter aux heures de l'histoire. Vous nous rappelez justement cette histoire avec moult archives et puis les anecdotes savoureuses qu'on vous connaît à chaque fois. On est en 1889, c'est l'ère de l'exposition universelle. ans, deux hommes, Jacques, s'entendent pour créer un lieu unique qu'ils veulent d'abord dédier à la musique et à la danse.
Ils s'appellent Charles Oller et Joseph Oller et Charles Zidler, et ils ont l'idée de créer justement dans le jardin de Paris, qui est un lieu où on se promène l'après-midi, une petite cabane au fond du jardin, comme dirait Francis Cabrel, avec le cancan. Le cancan, c'est au départ le quadrille naturaliste, une danse inventée par Céleste Mogador, que Joseph Oller a aperçue dans un petit cabaret de Montmartre, qui s'appelle l'Élysée Montmartre à l'époque, et il a vu la danseuse, une jeune blanchisseuse, Louise Weber, qu'on appelle la Goulue parce qu'elle boit les verres d'un trait, et un danseur, Valentin Desossé. Il a transposé ça au Moulin Rouge. Et entre-temps, ce quadrille naturaliste est parti en Angleterre, où comme c'est une danse qui fait du bruit et qu'elle est française, c'est devenu le French Cancan.
Voilà, avec un extrait de rigueur. Avec les froufrous du cancan, évidemment, que faisait virevolter aussi la fameuse Goulue qui est associée, vous citiez son nom et sa légende, Louise Weber, à cette entreprise, à cette institution du Moulin Rouge. Rouge, la couleur de la fête, la couleur aussi de l'encanaillement.
Voilà, puisqu'il s'agit d'encanailler les bourgeois venus de Boulogne et les ouvriers. Parce qu'au Moulin Rouge, on vient, ça coûte pas cher.
Et on associe les mondes.
On associe les mondes. Il y a un bar réservé aux hommes et aux femmes, car les femmes n'ont pas le droit d'aller au bord de la piste, ça a beaucoup changé depuis.
D'accord.
Et les hommes voient virevolter les danseuses, et le grand jeu consiste pour une danseuse à lever la jambe pour arracher le haut de forme d'un monsieur.
Oui, les bourgeois qui rencontrent les prolétaires et ce Moulin Rouge qui devient un temple d'extravagance, quelque part revendiqué d'ailleurs.
Revendiqué complètement, il s'agit de faire la fête à Paris, c'est le temple de la femme parce qu'à l'époque on parle déjà de féministes et les premières féministes, ce sont la Goulue, Rayon d'Or et
qui autres. Montrent leur corps.
Elles montrent leur corps et elles défendent aussi les femmes libres et les femmes indépendantes. Et ça, c'est très important.
Alors, il n'y a pas que la danse, il n'y a pas qu'une revue au départ. Le lieu va évoluer. Il y a aussi les clowns, par exemple, le clown chocolat qui se produit à Oumoulin.
Exactement, avec Footit et chocolat. Et puis, en 1890, on récupère à l'exposition universelle un éléphant qui servait de décor. Il est entièrement transformé en salle de spectacle dans le jardin de Paris. Et au premier étage, il y a une salle de spectacle avec Yvette Guilbert qui débute, qui est une chanteuse célèbre pour Madame Arthur. Et un personnage très insolite, le pétoman, qui fait son numéro tous les soirs.
Voilà, ouais, c'était des singularités de l'époque. La Goulue, vous la citiez, une cancaneuse de l'époque, repérée par un de ceux aussi qui tombe sous le charme de ses spectacles et de sa personnalité, que vous citez largement, c'est Toulouse-Lautrec, qui va immortaliser ce lieu parisien.
Et heureusement qu'il était là tous les soirs au premier rang au Moulin Rouge, avec ses fusains, il dessinait les danseuses, il adorait la Goulue d'ailleurs. Elle lui rendait bien, elle l'embrassait en disant « Vous avez des lèvres en rebord de baignoire. » Et c'est vrai qu'il va défendre la Goulue jusqu'au bout, même quand elle sera dans la misère, réaliser des toiles qui valent aujourd'hui des millions de dollars aux États-Unis.
Ouais, c'est incroyable. Alors qu'il y a eu plusieurs moulins rouges, il y a eu plusieurs époques moulins rouges, jusqu'à aujourd'hui évidemment. D'abord, il est détruit, ce moulin, en 1915 par un incendie, en partie en tout cas.
Totalement. Et en 1923, il est reconstruit grâce à un éditeur, Francis Salabert. C'est les années folles. Et Miss Tinguette, qui a le sens du marketing très fort, va venir au Moulin Rouge proposer des revues qui vont triompher. Et les Américains vont venir et vont même copier la dernière revue du Moulin Rouge Allô ici Paris à Broadway en 1930.
Incroyable, c'est vraiment le moment où les années folles réinventent le Moulin Rouge.
Complètement, avec un lieu qui n'a rien à voir avec le premier, qui est un véritable lieu aujourd'hui, qui est le cinéma du Moulin Rouge, où sur scène, il y a 60 personnes, un orchestre, les charges ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui.
Bien sûr.
Et Miss Tinguette qui mène la danse avec un jeune chanteur quelquefois qu'elle a repéré, qui est le sosie de Maurice Chevalier, dont elle était très éprise et qui l'a lâché.
Oui.
Ce jeune chanteur s'appelle Jean Gabin.
Incroyable.
Il a débuté aux Folies Bergères comme danseur. Et puis, il va accepter de faire un film pour justement gagner un peu d'argent. Et il n'imagine pas qu'il va faire carrière ensuite.
Ce sont tous ces magnifiques fantômes que l'on croise aujourd'hui dans cette salle du Moulin Rouge, avec ces danseuses nues, avec ces revues légères qui font le succès. Vous le disiez, deux spectacles par jour, 7 jours sur 7. Revenons encore un peu dans l'histoire, puisque la Seconde Guerre mondiale fragilise le Moulin Rouge, mais il survit, il continue d'accueillir des stars comme Joséphine Baker, comme Frank Sinatra, comme Piaf Montand, Charles Aznavour ou Liza Minnelli. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. La vie est un cabaret, mes amis. Venez au cabaret avec ses spectacles et avec ses personnalités qui ont imprimé aussi la légende et le musical Moulin Rouge,
oui,
cher Jacques.
Parce que bon, Piaf, Montand, effectivement, ils se rencontrent en 1944. Piaf doit faire un récital, il faut une première partie. On lui propose Montand, elle dit « je ne veux pas de ce comique à pointe d'ail ». Lui, il ne veut pas entendre parler de cette broyeuse de cafard. On connaît la suite, deux ans d'amour.
Oui.
Et ensuite, tous les artistes des années 50 vont se produire au Music Hall, au Moulin Rouge. Alors, le lieu n'est pas le même, car la salle où Miss Tinguette a joué est devenue un cinéma. Et puis à côté, il y a un bal du Moulin Rouge qui va être construit par Jean Baucher et par Joachim Clérico, qui à partir de 1960 vont créer un dîner-spectacle. Et c'est là où le véritable Moulin Rouge d'aujourd'hui naît, avec un dîner, une revue. Elle commence par un F systématiquement, parce que Froufrou, la première revue a été un véritable succès.
Oui, et Ferry depuis 1999, vous
exactement.
Me disiez du coup.
Et petit à petit, le Moulin Rouge va se développer jusqu'à aujourd'hui, où c'est devenu un véritable village.
Oui, un village que vous avez visité, je le sais, avec aussi des métiers d'art, avec l'artisanat, un centre des métiers d'art justement, qui fait vivre encore des métiers qui se perdaient peut-être et qui subsistent grâce à cet ouvrage, notamment les plumassiers.
Oui, car en effet, Jean-Jacques Clérico a pris la décision de racheter tous les artisans qui avaient bien des difficultés pour les sauver et sauver la tradition du Moulin Rouge. Et il y a aujourd'hui un centre d'art qui est au cœur du Moulin Rouge et les plumassiers, c'est extraordinaire. Il y a, je crois, 2 tonnes de plumes qui sont posées pendant une année sur les robes des danseuses, partout.
Incroyable. Ouais.
Et il y a les plumassiers, il y a les boas, il y a 3 mètres de boas tous les ans.
Ouais.
Et il y a les femmes qui répare les robes chaque jour. C'est un véritable village qui vit jour et nuit.
Oui, avec évidemment la brigade des chefs aussi, parce qu'il s'agit de servir 1600 repas par jour.
Oui, c'est un véritable balai.
Voilà,
oui,
un autre balai aussi en coulisses avec une carte gastronomique. Cette marque Moulin Rouge depuis 135 ans, il n'est pas la seule aujourd'hui revue à exister à Paris. On pense à d'autres revues comme le Crazy Horse ou le Paradis Latin, mais il y a une spécificité. C'était Moulin Rouge, c'est l'histoire que vous venez de nous raconter en quelques mots, Jacques Pessis.
Oui, c'est la véritable revue dans la tradition. Le Paradis Latin ou le Crazy Horse, tout à fait autre chose. Mais la revue dans la tradition de Paris, qui fait le charme de Paris, qui fait la vie parisienne, qui fait Paris-Ville en fait, c'est le Moulin Rouge.
Oui, et le rouge, on l'évoquait, le rouge de Paris qui est une fête en ces temps troublés. C'est un livre aussi que chaleureusement vous recommandez parce qu'il nous permet aussi de rentrer dans ces archives de légendes, dans ces affiches signées, même Toulouse... Lautrec et qui nous font revisiter un Paris de la belle époque et des années folles dont on aime revoir finalement les grands traits.
Paris ville lumière telle qu'on la voit dans le monde entier.
Oui. Jacques, vous êtes avec nous et traditionnellement à nos invités, je demande aussi une chanson en dehors de celle que nous avons entendue qui nous plonge dans cette magie, une chanson qui vous raconte et qui illustre votre rapport à la culture. Vous avez choisi une chanson d'Yves Duteil, La langue de chez nous. Pour quelle raison, Jacques ?
Parce que je défends la langue française, parce que autour de nous, je vois des jeunes qui défendent aussi la langue française, malgré les contraintes qu'on leur impose. Et je pense que c'est essentiel, parce que Paris est une fête et la langue française doit rester une fête.
Écoutez, Yves Duteil avec Jacques Pessis.
C'est une langue belle à l'autre bout du monde. Une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde. Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan, elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique. Elle a quitté son nid pour un autre terroir. Et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs. Nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges. Et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre. Et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe. et qu'il a composé toute une symphonie.
C'est un magnifique artiste, Yves Dutheil.
Oui, et cette chanson est née au Québec, devant Félix Leclerc. Il l'a chantée pour la première fois. Et Félix Leclerc lui a dit, mais il faut que tu en fasses un disque. Et c'est devenu presque un hymne au Québec.
Absolument, et la poésie, voilà, tout en lumière d'Yves Dutheil. Cher Jacques, merci de nous avoir présenté Moulin Rouge, quand Paris est une fête, un ouvrage superbe aux éditions du Cherche Midi. Où vous retrouvez, si vous êtes aussi fan de cette belle époque et plus tard des années folles dans l'autre sens, Monsieur Lautrec, La vie est belle, voilà le quadrille, cette tradition du Moulin Rouge qu'il venait immortaliser, une feuille de papier et un fusain toujours à portée de main. Il profitait du chahut pour réaliser les esquisses de ce qui deviendra les premières affiches publicitaires de cette institution.
Merci Wendy et joyeux Noël à tous.
Joyeux Noël, merci beaucoup cher Jacques et à tout de suite pour la suite de nos programmes. Demain c'est Cyril Ardo qui vous informe, je retrouverai avec grand plaisir jeudi, prenez soin de vous et de vos familles. À tout de suite.
Bientôt, votre radio change de nom.
Bonjour, c'est Amir.
Bonjour, c'est Robert Charlebois.
Bonjour,
c'est Philippe Geluck.
J'ai chanté longtemps sur les antennes de France Bleu.
Avant, je chantais sur France Bleu.
Dernière nouvelle, France Bleu change de nom.
Désormais, vous m'écouterez.
Maintenant, je chante
et s'appellera désormais
Ici.
Ici.
En 2025,
Ici.
France Bleu devient
Ici.
Actu locale, musique et bonne humeur.
C'est Ici.
Ici.
Sur France Bleu.
Il est 13h30, merci d'être à l'écoute de France Bleu, fidèle à votre premier grand média de proximité. Le programme à suivre, vous le savez, c'est la musique, les bons plans près de chez vous, l'info et la bonne humeur. À demain 13h pour Ma France.
Actu locale, musique et bonne humeur.
C'est ici.
Ici.
Sur France Bleu Paris.
Bonjour à toutes et à tous, Sophie Nolveau avec vous pour cet après-midi festive et jusqu'à 16h, soyez les bienvenus sur France Bleu Paris. Nous sommes à quelques heures du réveillon de Noël, j'espère que vous pourrez le passer en famille, entouré de celles et ceux que vous aimez. Et si c'est pas le cas, je voulais vous dire que je pensais très fort à vous et que grâce à France Bleu Paris, eh bien nous allons rester connectés et ensemble comme toujours d'ailleurs. Vous voulez découvrir la suite? Eh bien la voici. Ce sera Pink Floyd avec cette chanson extraite de l'album The Dark Side of the Moon, sorti en 73. Un titre écrit par Roger Waters. On accueillera également Lynn avec Je pense à vous. En attendant, place à une icône, la jolie Vanessa Paradis en pleine période américaine. C'était en 92. Voici Be My Baby sur France Bleu Paris. Je vous souhaite un excellent mardi avec nous.
ici.
Ici,
c'est France Bleu Paris.
Je ne m'y attendais pas au grand départ. Fermer la porte sans revenir. Je sais, vous ne comprenez pas ma vie, mes choix et envie de toucher à l'avenir. Non, je ne vous oublie pas, je le dirai pas. Mais quand j'y pense, danse ma poitrine. Pardonnez-moi pour tous ces soirs où j'ai prié qu'on me laisse tranquille. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenirs en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus fort. Pas. Je vis la vie dont j'avais envie. Mais ne vous méprenez pas, mes rêves ont raison de moi. Mon cœur lui voudrait quitter la ville. Je vous mens pas, cette fois c'est la dernière fois que je me lance non plus dans le vide. Si vous saviez comme j'y crois malgré les peines, il faut pas à ce rêve immense qui m'anime. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenirs en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête. Même à des kilomètres, je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, je pense à vous plus fort.
Actu locale, musique et bonne humeur,
c'est ici,
ici,
sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, 13h41, on écoutait Money de Pink Floyd à l'instant. Et on va faire un petit point sur vos conditions de circulation. Ici l'infotrafic en temps réel sur France Bleu Paris. Pour le moment, 80 km de bouchons cumulés. C'est assez fluide et c'est une bonne nouvelle. Attention tout de même à cet accident survenu au sud-est de Paris, sur l'A5B, dans le sens Paris-Province. Une voiture est impliquée. Attention aussi au nord de la capitale. Une voiture est en panne sur l'A86 extérieure, du carrefour Pleyel vers Villeneuve-la-Garenne. Sur quatre voies, la voie de droite est fermée. Et puis, à l'ouest de Paris, une voiture est en panne également sur l'A13 dans le sens Paris-Province. Du pont de Saint-Cloud vers Vaucresson, sur trois voies, la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence sont fermées. Et puis, dans vos transports en commun, le trafic est perturbé sur la ligne T4 du tramway. Bien sûr, si vous avez d'autres infos pour nous, 01 42 30 10 10. On fait le point sur vos conditions de circulation toutes les 15 minutes sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, numéro 1 sur l'infotrafic.
Et puis on poursuit en musique, et bien sûr, ce bel après-midi de mardi 24 décembre. Déjà, ça y est, c'est le grand jour pour le réveillon de Noël. Et je suis sûre que vous activez chacun de votre côté, que vous soyez au volant de la voiture, à la maison, en train de préparer peut-être la table, ou au boulot pour rentrer le plus vite possible. Voici Renaud qui arrive avec Marche à l'ombre sur France Bleu Paris.
Quand le babacool Kralok est sorti de son bus Volkswagen, qu'il avait garé comme une loque devant mon rad, j'ai dit à Bob qui était au flip, viens voir le mariole qui se ramène, vise la dégaine. Quelle rigolade, patchouli, patogas, le geek du routard dans la poche, Hare Krishna à mort, cheveux ouénés, oreilles percées, tu vas voir qu'à tous les coups, il va nous taper 100 balles, pour se barrer à Katmandou au Népal, avant qu'il ait pu dire un mot, j'ai chopé le mec par le paletot. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde, arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues. Et marche à l'ombre. Une petite bourgeoise bêcheuse maquillée comme un carré d'as a débarqué dans mon gastos un peu plus tard. J'ai dit à Bob qui était au flip, reluque la tronche à la pouviasse, fils la culasse et les nibards. Collant léopard, homologué chez SPA, Monoï et Chalimard. Putain en sky comme Travolta, qu'est-ce qu'elle vient nous frimer la tête? Non mais est-ce croix au palace? Je peux pas saquer les starlettes ni les blondasses. Avant qu'elle ait bu son cognac, je l'ai chopé par le callback. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde, arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Rocky Barjot, le genre qui s'est gouré trottoir, est venu jouer les Marlon Brando dans mon saloon. J'ai dit à Bob qui avait fait tilt, arrête j'ai peur, c'est un blouson noir, je veux pas d'histoire avec ce clown. Derrière ses pauvres ébans, je vois pas ses yeux et ça m'énerve. Si ça se trouve il me regarde, faut qu'il arrête sinon je le crève. Non mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui vient user mon comptoir, la carte tournée chez les Grecs, se faire voir. Avant qu'il ait bu son viandox, je l'ai chopé contre le jukebox. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde, arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Puis je me suis fait un punk qui avait pas oublié d'être moche, bien intellectuel en l'Oden, genre nouvel ops. Quand Bob a massacré le flipper, on avait plus une thune en poche, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, c'est vrai que je suis épais comme un sandwich SNCF, et que demain je peux tomber sur un balèze qui me casse la tête. Si ce mec-là me fait la peau et que je crève la gueule sous le comptoir, si la mort me paye l'apéro d'un air vicelard, avant qu'elle m'emmène voir là-haut, s'il y a du monde dans les bistrots, tu dirais, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde, arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues. Et marche à l'ombre, casse-toi tu pues. Et marche à l'ombre, casse-toi tu pues. Et marche à l'ombre.
Ah bah voilà, que c'est clair. Casse-toi tu pues et marche à l'ombre. On écoutait Marche à l'ombre, sorti en 80, c'était évidemment Renaud sur France Bleu Paris. Dans un instant, un petit peu avant 14h, direction le 6e arrondissement de Paris, évidemment dans le prochain quart d'heure, en compagnie de Muriel Jordan qui nous ouvrira les portes des coulisses du café mythique Les Deux Magots. Ce sera après De Cure et Patrick Fiori sur France Bleu Paris.
C'est une affaire criminelle qui nous mène aux frontières de la folie. Un récit inédit sur le cannibale de la prison de Rouen. Crime et témoignages, le podcast de France Bleu qui raconte des affaires criminelles partout en France. Crime et témoignages est disponible sur la plateforme Radio France et l'application ICI. ICI.
Face au drame qui frappe Mayotte, Radio France s'associe à la Fondation de France et lance un appel à votre générosité pour venir en aide aux victimes du cyclone. Faites un don sur fondationdefrance.org ou à l'adresse suivante Fondation de France, Solidarité Mayotte, 60 509 Chantilly, Cedex. Merci pour votre soutien.
Ici, c'est France Bleu Paris.
Comme un parfum qui nous revient de l'enfance, sans prévenir sonne l'inconscient. J'ai pris des trains, des bateaux qui dansent, pour revenir à l'évidence. De forêts vierges en océan caché, y a mille pièges où l'on se trahirait. J'ai pris le large et des chemins glacés, pour revenir à qui j'étais. Car elle, c'est ma mère, c'est ma terre, c'est la gloire de nos pères, mon hémisphère naturel. Et elle me revient, me retient, elle est là d'où je viens, même si tout s'éteint. Elle n'est jamais loin. J'ai beau m'enfuir et de lui m'éloigner, je sais cet endroit à mes côtés. Ce serait mentir de dire qu'il est parfait, mais c'est lui qui m'a fait. Bien sûr les ratés, les ombres au tableau, bien sûr les méfaits, les défauts. Y'a pas un pays sans tache au drapeau, c'est ma maison. Elle, c'est ma mère, c'est ma terre, c'est la gloire de nos pères, mon hémisphère naturel. Et elle me revient, me retient, elle est là d'où je viens, même si tout s'éteint. Elle n'est jamais.
Ici, c'est France Bleu Paris.
Actu locale, musique et bonne humeur.
On écoutait The Cure à l'instant sur France Bleu Paris avec Boys Don't Cry et vous faisiez peut-être partie du camp de Cure. Il y avait aussi le camp des Depeche Mode. Bah écoutez, on a en tout cas beaucoup de bonheur à réécouter ce groupe sur France Bleu Paris. Allez, chaque semaine, notre reporter Muriel Jordan nous raconte la face cachée de Paris. Ça s'appelle Accès Privé et cette semaine, on pousse la porte du célèbre café des Deux Magots en plein quartier de Saint-Germain-des-Prés aux côtés de la propriétaire du lieu, Catherine Métiva, un lieu fréquenté par les plus grands poètes, artistes et écrivains.
Paul Valéry, André Gide, Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, Fernand Léger, Jacques Prévert, Ernest Hemingway. Est-ce qu'on continue ? Parce que la liste est très très longue. Hein. D'illustres artistes ont travaillé ici et se sont assis pour écrire, pour créer. Elle était où la table de Simone de Beauvoir, par exemple ?
Compte tenu du nombre d'artistes que vous venez de citer, effectivement, je vais vous emmener voir leurs tables différentes. Alors suivez-moi.
Un comptoir est tout neuf qui fait de l'effet. Une fleuriste qui vend ses fleurs aux amants.
Nous allons aller vers la table 57-58, car nos tables ont des numéros, et qui était la table où s'installait Simone de Beauvoir, notamment à côté de Sartre, pour écrire. Il faut savoir qu'à cet endroit-là, Simone de Beauvoir a écrit Les Mandarins qui ont été pris Goncourt. Donc ça, vous avez la table de Simone de Beauvoir, où elle avait ses habitudes, elle aussi ses habitudes dans d'autres cafés de Saint-Germain-des-Prés, mais quand elle voulait être tranquille, elle s'installait à sa table au Deux Magots.
Moment qui a été immortalisé d'ailleurs, puisqu'on voit cette photographie juste au-dessus, où on voit Simone de Beauvoir travailler juste ici. Le décor, on remarque qu'il est vraiment resté dans son jus.
Le décor reste identique par rapport à ce qu'on voit sur la photo. Alors les voilages ont peut-être un petit peu changé, mais la décoration des murs, la table, on reste toujours dans... on perd pas l'âme.
En 1954, dans ce café des Deux Magots, c'est l'effervescence à son maximum. On y aperçoit Boris Vian avec sa trompinette, Jean-Paul Sartre avec d'autres intellectuels, Simone de Beauvoir ou encore Ernest Hemingway fumant le cigare au fond de la salle. C'est dans les années 20 qu'il tombe amoureux de Saint-Germain-les-Prés. À ce moment-là, il est correspondant étranger à Paris.
Si on se déplace un petit peu plus loin, vous allez trouver la table où Hemingway a rencontré une journaliste au moment de la guerre de 40 et il s'installait sur plutôt la table 51. Voilà, pareil, sur la photo qui est juste au-dessus de la table où s'asseyait Hemingway, il y a la plaque avec son nom, et il avait un petit peu ses habitudes quand il est arrivé à Paris et qu'il a écrit notamment « Paris est une fête ». Il a peut-être eu les idées ici. Il cite d'ailleurs les Deux Magots dans « Paris est une fête ».
Quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés.
Je ne pense pas qu'il y ait une pression à avoir tout un passé littéraire dans un café ou artistique. Au contraire, il y a une envie de transmettre, une envie de faire connaître que ce n'est pas qu'un café... café-restaurant, c'est un café qui a toute une histoire littéraire, artistique derrière lui et une histoire qui continue.
Aujourd'hui, quand je te reverrai.
Et demain, on va vous racontera comment Picasso est tombé amoureux de sa muse. C'était justement au Deux Magots. Retrouvez tous les podcasts d'Accès Privé, justement sur l'application ici ou encore sur francebleu.fr. On poursuit en musique avec Jean-Jacques Goldman. Tourne les violons à l'instant sur France Bleu Paris. Je vous souhaite un bon mardi de prépa de Noël.
Grande fête au château il y a bien longtemps. Les belles et les beaux nobles au noble sang. De tout le royaume en est venu dansant. Tourne les violons, tourne les violons, tourne et s'en vont. Tourne les violons. Grande fête aux Rameau et Manon à 16 ans. Servant en ce château comme sa mère avant. Elle porte les plateaux lourds à ses mains d'enfant. Tourne les violons, tourne et s'en vont. Tourne les violons. Le bel uniforme, oh, le beau lieutenant. Différent des hommes d'ici, blond et grand. Le sourire éclatant d'un prince charmant. Tourne les violons, tourne et s'en vont. La fête et les rires et les danses. Manon s'émerveille en remplissant les panses. Le bruit des lumières, c'est lui qui s'avance. Tourne les violons, tourne les violons. tourne et s'en va. Tourne les violons. En prenant son verre auprès d'elle, il se penche, lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Tu es bien jolie dans un divin sourire. Tourne les violons, tourne et s'en va. Tourne les violons. Passent les années dures et grises à servir. Une vie de peine et si peu de plaisir. Mais ce trouble-là brûlant ses souvenirs. Tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les violons. Elle y pense encore et toujours. Les violons le décor et ses mots de velours. Son parfum s'étend blanche les moindres. En prenant son verre auprès d'elle, il se penche, lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Juste quatre mots, le trouble d'une vie.
On écoutait Jean-Jacques Goldman à l'instant sur France Bleu Paris avec Tourne les violons.
Le 6 janvier 2025, France Bleu devient, ici, plus que jamais, connecté à notre région. Ici Paris-Île-de-France, le nouveau nom de votre radio.